Merci d'écouter RFI, il est 8h30 à Paris et N'Djamena, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Vincent Dublange, l'Angola annonce que la RDC et le M23 vont discuter directement.
Et cela devrait se faire, Andréane, dans les prochains jours, à Luanda. C'est en tout cas ce que dit la présidence et les autorités angolaises. Ça fait suite à cette rencontre hier entre les présidents Lorenzo et Tshisekedi à Luanda. Les autorités congolaises disent prendre acte. Pour l'instant, elles attendent de voir, disent-elles, la mise en œuvre de cette démarche angolaise. À la une également de cette édition, l'Union des journalistes tchadien qui demande la libération des journalistes arrêtés la semaine dernière, dont Olivier Monodji, directeur du journal Le Pays et par ailleurs l'un des correspondants de RFI. Compte rendu d'audience dans cette édition au Bénin après la reprise hier du procès interrompu depuis 7 ans des accusés de la mort du syndicaliste urbain Danivo. Décryptage aussi des raisons de la très handicapante pénurie d'essence en ce moment en cours au Niger. Et puis le journal des sports dans 10 minutes, l'Assemblée Générale élective de la Confédération Africaine de Football. C'est aujourd'hui, on attend l'entrée de Samuel Eto'o au comité exécutif et la réélection dans un fauteuil du Sud-Africain Patrick Motsepe. Y aura-t-il des discussions directes entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé du M23 ? C'est une ligne rouge infranchissable, a répété à de multiples reprises le président Félix Tshisekedi. C'est pourtant une idée défendue par de nombreux acteurs qui jouent un rôle dans les tentatives d'apaisement du conflit militaire en cours. Les églises catholiques et protestantes de RDC en font l'une des clés de leur proposition de pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. La délégation des églises catholiques et protestantes était d'ailleurs lundi à Luanda en Angola pour expliciter sa feuille de route, écouter aussi ce qu'avait à dire le président João Lourenço. Le chef de l'État angolais, qui s'est ensuite entretenu donc avec son homologue congolais, c'était hier. Félix Tshisekedi était à Luanda. À la sortie de cet entretien, les autorités angolaises ont communiqué. Elles affirment, Paulina Zidi, que le M23 et Kinshasa vont se parler.
C'est en tête-à-tête que les présidents Tshisekedi et Lourenço se sont entretenus. Pas de déclaration à la sortie, mais cette annonce choque de la présidence angolaise sur les réseaux sociaux qui explique qu'elle va, je cite, « établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent à des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère. » Du côté de Kinshasa, on assure prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise, précise Tina Salama, la porte-parole de la présidence, qui rappelle qu'un cadre existe dans le processus de discussion dit de Nairobi. Depuis le début du conflit, la RDC a fait de ces discussions directes une ligne rouge. Le président Tshisekedi l'a rappelé plusieurs fois, estimant que toute négociation devait se faire avec le Rwanda. Le maître du M23 a encore affirmé le chef de l'État congolais fin février. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et pour information, demain, la SADC, l'Afrique australe, l'organisation d'Afrique australe, je vais y arriver, organise un sommet consacré à la République démocratique du Congo. Il est 8h33 à N'Djamena. Notre confrère Olivier Monodji est toujours à la maison d'arrêt de Klessoum dans la périphérie de la capitale du Tchad. Placé lundi sous mandat de dépôt, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays est poursuivi pour ses écrits dans ce média. Il est par ailleurs correspondant de RFI au Tchad. Olivier Monodji a été inculpé en compagnie d'un autre journaliste, d'un collaborateur également occasionnel de son journal et puis d'un homme d'affaires, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à la sûreté de l'État ou encore complot. Ce sont des crimes passibles d'une peine qui peut aller jusqu'à 30 ans de prison au Tchad. Le président de l'Union des journalistes tchadiens qui a assisté aux auditions explique aujourd'hui pourquoi la place de ces quatre personnes en fait n'est pas en prison. Écoutez Abbas Mahamoud.
Pour nous, le procureur de la République, il a mal qualifié le fait. Selon ce que nous avons écouté, ils ont publié des articles dans différents journaux. L'un a traduit seulement un article, l'a publié dans un journal. On reproche à Olivier d'avoir publié un article et un public reportage dans son journal et d'avoir partagé des informations qui concernent l'économie du pays, des informations accessibles à tout le monde. Jusqu'à maintenant, on n'a pas montré la sensibilité ou la gravité des informations partagées. Donc, ce que nous avons vu, c'est un public reportage. Donc, même s'il y a un crime, même s'il y a un délit, c'est un délit de presse. Et quand c'est un délit de presse, c'est dépénalisé. Normalement, il ne devrait pas rester en prison. Il devrait avoir, n'est-ce pas, la possibilité de comparaître librement devant le juge. C'est pourquoi, pour l'UJT, c'est une détention arbitraire et il faut qu'on respecte les procédures pénales et les dispositions de la loi en cette situation.
Propos recueillis par Esdras Ndikoumana. L'avocat français de Boualem Sansal veut porter l'affaire devant les juridictions internationales, l'ONU, l'Union africaine, l'UNESCO. François Zimeray entend ainsi alerter encore davantage, alors qu'il affirme être sans nouvelles de son client depuis deux semaines. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est détenu en Algérie depuis mi-novembre, poursuivi pour des déclarations faites dans un média français. Des déclarations considérées par Alger comme portant atteinte à son intégrité territoriale. Maître Zimeray parle, lui, de détention arbitraire.
J'attends toujours la réponse à mes deux demandes de visa et je suis obligé de me rendre au constat que je ne l'ai pas eu, que je n'ai pas pu me rendre auprès de mon client, que je n'ai pas pu accéder au cabinet du magistrat instructeur, que je n'ai pas pu voir les charges qui pèsent contre lui, que par conséquent sa défense est aujourd'hui impossible. Et lorsqu'une défense est impossible, il ne peut pas y avoir de procès équitable. Et s'il n'y a pas de procès équitable, la détention est arbitraire. Et puisque la détention est arbitraire, nous allons saisir les organes de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, chargés d'apprécier le caractère arbitraire d'une détention, chargés de dénoncer les violations des traités définissant le procès équitable. Et nous envisageons de le faire pour toutes les grandes instances multilatérales auxquelles l'Algérie est partie, qu'il s'agisse de l'Union africaine et qu'il s'agisse de la procédure article 104 de l'UNESCO également. Partout où cela sera possible, eh bien, nous saisirons les voies diplomatiques et judiciaires pour dénoncer cette détention arbitraire.
Des propos recueillis par Pierre Firsion. De la justice, toujours au Bénin. C'est une affaire qui n'a pas avancé au niveau judiciaire depuis 7 ans maintenant. Le procès de l'affaire de la mort du syndicaliste et opposant à l'époque du président Boni Yayi, Urbain Daniveau, qui a disparu en 2010. Ce procès a bien repris hier devant le tribunal de première instance de Cotonou. Les deux accusés nient en bloc et affirment avoir été manipulés, Jean-Luc Aplogan.
C'est la quatrième fois que la justice ouvre le dossier Daniveau. Les audiences précédentes n'ont pas débouché sur un jugement. Cette fois, le procureur promet que le procès ira au bout. La procédure est en état de recevoir un jugement, a-t-il indiqué dans un communiqué. La famille du syndicaliste disparu avait demandé des tests ADN contradictoires. C'est fait, mais les résultats ne sont pas encore publics. Le procès ouvert mardi est entré tout de suite dans le vif du sujet. Les deux présumés assassins nient catégoriquement les faits. Le féticheur Kodjo Alofa, qui avait en 2010 fait des aveux après la découverte d'un corps enterré près de chez lui, est revenu sur ses propos et démenti à la barre ce mardi n'avoir jamais tué Urbain Daniveau. On m'avait demandé d'endosser ce crime pour de l'argent et la promesse d'une relaxe. Je purgeais une peine pour vol de moto quand j'ai été approché pour jouer ce rôle, déclare le féticheur. Il dévoile dans son récit les noms de personnalités de haut gradé qui le lui ont demandé. Ce mercredi, on entendra la version des témoins, ce qui donnera lieu aux premières confrontations. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Sénégal, une protection consulaire pour les ressortissants détenus au Maroc. L'Assemblée nationale a adopté hier à l'unanimité cette loi qui autorise le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc, un document qui doit encadrer l'assistance consulaire aux détenus sénégalais dans le royaume, notamment des migrants. La convention doit aussi autoriser le transfèrement mutuel de condamnés entre les deux pays. Alors que le gouvernement sénégalais a récemment annoncé que l'ancien président Macky Sall, qui vit au Maroc depuis qu'il a quitté le pouvoir, ferait face, je cite, à la justice, cette convention, un temps, a porté à croire qu'elle pouvait servir dans le cadre d'éventuelles poursuites à son encontre. Mais ce n'est pas le cas. À Dakar, les explications de Léa Lisa Vesteroff.
Cette loi ne vise pas l'ancien président Macky Sall qui vit au Maroc, ont à plusieurs reprises répété les députés venus s'exprimer à la tribune, comme Aissata Talsal, ex-ministre de la Justice et élu du parti de Macky Sall.
Mais pourquoi le président Macky Sall subitement se retrouve au centre de cette discussion? Il a salué que madame la présidente de la commission qu'elle sorte un communiqué pour dire le président Macky Sall n'est en rien concerné.
Comme le stipulent les 24 articles qui composent cette convention, le texte sert à encadrer le transfert et l'assistance consulaire aux détenus sénégalais au Maroc et vice-versa. Pour Amadouba, député du PASTEF, avec près de 300 Sénégalais détenus au Maroc et une communauté de 200 000 personnes, il fallait combler ce vide juridique.
Il y a eu un afflux, quand même, on a eu des remontées de beaucoup de Sénégalais qui, partis pour l'immigration ou autre, se sont retrouvés dans les prisons ou en tout cas entre les mains de la justice marocaine. Et c'était très difficile pour les consuls de travailler sans un cadre juridique approprié. Donc aujourd'hui, on a ce cadre juridique et ça va permettre de mieux assister les Sénégalais.
Quelle assistance est prévue pour les mineurs sénégalais détenus en Espagne ou encore les 400 Sénégalais en Mauritanie, ont interrogé certains députés. La ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, a assuré hier que des discussions avec Nouakchott étaient en cours et qu'elle avait fait part de son indignation, je cite, face au traitement inhumain subi par ses compatriotes en Mauritanie. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et on va terminer ce journal au Niger, à Niamey, où la pénurie d'essence frappe. Elle semble même s'accentuer ces derniers jours. Pourtant, le pays produit du pétrole, Alexis Bédu.
4 jours que les réservoirs sont à sec dans certaines stations essence. Mamane Nouri est le président de l'association de défense des droits des consommateurs.
C'est une pénurie très remarquable. Ça perturbe pratiquement les va-et-vient des consommateurs autour des marchés, autour des quartiers, où c'est pratiquement toutes les activités socio-économiques qui sont impactées, que ce soit le transport voyageur, que ce soit le transport marchandise.
L'unique raffinerie du pays ne fournit que 25 camions citernes d'essence par jour, alors qu'il en faudrait le double. Autre problème, l'essence au marché noir venant du Nigeria n'est plus disponible. Avec la suppression de la subvention de l'autre côté de la frontière, la contrebande du carburant nigérian n'est plus rentable, explique Adolphe Sagbo, président de la Confédération Générale du Patronat du Niger.
Le gouvernement nigérien, ils ont monté le prix de l'essence jusqu'à 950 naira. Ça fait pratiquement le même prix que l'essence ici à la station. Donc, prendre le risque d'aller prendre de l'essence à 450 francs et se faire attraper par la douane, il n'y a pas de gain. Donc les gens sont lâchés, ils ne vont plus chercher l'essence au Nigeria.
Pour résoudre la pénurie, la Sonidep, la compagnie pétrolière nationale, compte sur ses réserves de carburant à Lomé, au Togo, où des camions-citernes ont été acheminés.
Et à Niamey, comme à Paris, il est 8h42, André-Anne Mellard.
Sont du blanche, très belle journée à
vous. Merci. Bonjour.